Bonjour à toutes et à tous. Le 1er mai anticapitaliste arrive à grands pas, et pour nous assurer une belle manif, on vous parle de notre ABC de la sécurité en manif. Je vais vous parler en premier de comment se préparer à une manif, ensuite qu'est-ce qu'on fait pendant la manifestation, qu'est-ce qu'on fait après la manifestation. Je vais vous parler ensuite de la répression policière et des premiers soins en manifestation, qu'est-ce qui est important de savoir en cas d'arrestation, qu'est-ce qui est important de savoir si on est témoin d'une arrestation. Puis finalement, je vais aborder plus largement c'est quoi la culture de la sécurité, puis qu'est-ce qui est important de savoir pour s'assurer des mouvements sociaux qui sont forts et qui sont pas la cible de répression policière, ou qui sont protégés de la répression policière. Donc en ce qui concerne comment se préparer à une manifestation, il est pertinent de se poser plusieurs questions avant d'y aller pour savoir quel niveau de préparation on a besoin. Par exemple, une question qui peut être pertinente à se poser, c'est qui organise la manifestation? Avec qui est-ce que je m'y rends? Est-ce que c'est une centrale syndicale, les fédérations étudiantes, des groupes communautaires? Est-ce que c'est la CLAC ou le COBP qui organise la manifestation? Pour chacun de ces organisateurs, la police se préparera et agira avec des degrés de violence différents. Ensuite, il peut être pertinent de se demander pour quelles raisons cette manifestation a-t-elle lieu? Quelles sont les revendications qui y sont mises de l'avant? À quel genre de manif on peut s'attendre? Dans le cas où on est connu des organisateurs et organisatrices, est-ce qu'il est possible d'assumer des tâches pour la manif? En général, plus la cause est radicale et contestatrice, plus la police aura un préjugé défavorable envers la manifestation. Ainsi, la manifestation syndicale du 1er mai n'est pas une priorité pour la police, mais la manifestation anticapitaliste, elle, est systématiquement réprimée à chaque année. Est-ce qu'on s'attend à une manif familiale, une manif de soir? Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un black bloc? Est-ce que c'est une action directe, une occupation de local, etc.? Chaque type de manif implique différents degrés de danger et va donc requérir une préparation différente. Ensuite, on peut se demander où est-ce que la manifestation est organisée. Il peut être pertinent de connaître les lieux, de faire un repérage préalable en fonction de notre niveau d'implication dans la manif. Le repérage doit être fait à des heures semblables à celles de la tenue de la manifestation et peut être répété juste avant l'événement pour des imprévus. Par exemple, est-ce qu'il y a des chantiers, est-ce qu'il y a des rues fermées, etc. Il peut être utile de repérer les sorties potentielles, les métros, les lignes d'autobus, les lieux propices aux encerclements et aux souricières. Si la manifestation est loin de chez vous, assurez-vous également de savoir comment revenir par vos propres moyens et d'avoir l'argent nécessaire. Ensuite, il faut se demander avec qui je vais à la manifestation. Est-ce que je vais avec un contingent particulier? Est-ce que j'y vais avec un groupe affinitaire, avec mes amis? Est-ce que j'y vais seul? Est-ce que j'ai pris des tâches dans la manif? Si vous faites partie du groupe organisateur et que vous avez prévu participer à une action durant la manif, vous devriez évidemment vous préparer différemment selon la situation et agir en conséquence. Idéalement, sachez d'avance ce que sera votre rôle dans la manifestation et tenez-y-vous, à moins d'imprévus majeurs, évidemment. Quoi apporter lors d'une manifestation? Ça dépend, bien sûr, de ce que vous pensez faire durant la manif et du type de manif auquel vous pensez participer. Il peut être vraiment utile d'avoir sur soi un numéro d'avocat. On peut se l'écrire sur le corps à un endroit discret avec un marqueur. Il peut être également utile de s'amener calepin et crayon, un appareil photo, de l'eau fraîche pour boire, de l'eau mélangée avec du Malox en proportion 50-50, vraiment utile contre le poivre de Cayenne. Le jus de citron aussi, on peut y tremper notre foulard, ça nous protège des gaz lacrymogènes. Amener de la nourriture, privilégier les protéines, par exemple des noix, amener des bartons, des bananes, un peu d'argent comptant pour prendre l'autobus ou utiliser un téléphone public. Amener aussi des bas de rechange s'il annonce la pluie. Qu'est-ce qu'on doit porter dans une manifestation? Des vêtements confortables, des couleurs discrètes. Vous pouvez privilégier d'avoir plusieurs couches sur vous pour pouvoir vous changer rapidement. Portez des manches longues et des tissus synthétiques pour minimiser l'exposition de votre peau aux produits chimiques qui pourraient être lancés par les policiers. Aussi, pour cacher les tatous ou les signes distinctifs qui pourraient permettre de vous identifier par la police par la suite. Pensez aussi à apporter des vêtements de rechange, des sacs de poubelle hermétiques au cas où vous auriez été gazé ou poivré. Bien fermer le sac dans lequel vous mettez vos vêtements car leur simple présence peut incommoder votre entourage même après plus d'une heure. Des souliers de sport, c'est recommandé pour pouvoir courir plus vite et vous sentir confortable. Encore une fois, foulard trempé dans le jus de citron, des lunettes de ski qui vous protègent contre les gaz lacrymogènes. Si vous avez les cheveux longs, attachez-les. Si vous devez porter des lunettes pour voir, vous pouvez les attacher avec une simple ficelle reliant les deux branches que vous passerez derrière votre cou pour ne pas les perdre si elles tombent. Qu'est-ce qu'on doit éviter d'apporter sur soi lors d'une manifestation? Finalement, plein de choses qui pourraient vous incriminer, par exemple de la drogue, des armes. Mais les armes, ça inclut également tout ce qui peut être considéré comme une arme par la police, c'est-à-dire des ciseaux, un couteau, une seringue, des gaz inflammables, des bâtons qui ont ni pancarte ni drapeau, etc. Évitez aussi d'avoir une liste de numéros de téléphone de vos camarades militants, y compris sur votre téléphone. Mettez un mot de passe et idéalement, encryptez les informations contenues sur votre téléphone cellulaire. Aussi, évitez absolument de porter des verres de contact. Ça emprisonne les gaz lacrymogènes et le poivre de Cayenne dans vos yeux. Ça peut faire très, 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 très mal. Faire attention de ne pas apporter trop de trucs inutiles et qui entraînent un poids supplémentaire sur vous. Par exemple, un sac à dos. Les policiers peuvent vous attraper par la poignée du sac à dos. Des symboles ou des tracts militants qui permettent de vous associer avec un groupe. Ou des livres à saveur séditieuse, des masques à gaz, des boucliers, des pièces d'armure ou toute autre forme d'équipement offensif ou attirant l'attention. Si vous comptez pas faire partie intégrante d'un Black Bloc, évitez les masques à gaz, boucliers, armure ou toute autre forme d'équipement offensif qui pourrait attirer l'attention sur vous. Inversement, si vous comptez faire partie d'un Black Bloc, tout signe distinctif va permettre de vous identifier plus facilement. Assurez-vous également d'être préparé mentalement et physiquement pour le type de manif auquel vous allez participer, pour le type de présence que vous comptez adopter. Par exemple, si vous êtes encore sous de la veille dans une action directe appelée à 6h du matin, vos réflexes pourraient ne pas être à la hauteur de la situation, ce qui pourrait vous mettre en danger, mais aussi mettre en danger vos camarades. Pendant la manifestation. Le moment du rassemblement est souvent l'occasion pour la police de procéder à leur travail d'identification des participants-participantes et de chercher des signes indiquant qu'un acte criminel est sur le point de se produire, ce qui justifie leur intervention. Il est donc important d'arriver à accompagner et de réfléchir à la façon de s'y rendre. Dépendamment du type d'événement, il peut être préférable d'arriver indirectement, débarquer de l'autobus un ou deux coins de rue avant, sortir du métro une station à l'avance et faire la suite à la marche. Lorsqu'on s'y rend en voiture, toujours la garer plus loin, conserver son véhicule en ordre et vide de tout incriminant, drogue ou arme, pour apporter du matériel, être plusieurs à le porter ou garder le matériel à portée de main de plusieurs personnes en tout temps et s'assurer de le tenir fermement. Faites en sorte de ne pas attirer l'attention sur vous. Au point de rencontre avant le départ, il peut être pertinent de désigner une bannière haute et visible comme point de rendez-vous si vous perdez vos camarades durant la marche. Parlez-vous et préparez votre dispersion avant le début de la marche. Il y a une technique qui est particulièrement populaire dans nos milieux et c'est la technique du body. Il est préférable d'avoir quelqu'un, quelqu'une en qui vous avez entièrement confiance avec vous en tout temps durant la manifestation. Assurez-vous de toujours être à distance ou dans le champ de vision de cette personne et rester avec elle tout au long de la manifestation. Vous veillez sur elle, elle veille sur vous. Ainsi, s'il vous arrive quelque chose, vous ne serez pas seul et vice-versa. En déplacement, pendant la manifestation, il est vraiment important de rester groupé. Garder les rangs serrés nous permet d'éviter les arrestations éclairs ou encore de nous faire couper en deux. Mieux vaut ralentir la manif que de se retrouver dispersé et vulnérable. Il faut également éviter de courir en cas de charge policière. C'est un peu contre-intuitif, mais on s'est rendu compte que lors de charges, les flics n'avancent que de quelques mètres à la fois. Courir peut créer un effet de panique extrêmement dangereux au sein de la manifestation et contribuer à nous disperser. Si vous êtes chargé par une ligne anti-émeute et qu'il n'y a pas d'espace devant vous, ne courez pas, restez calme, avancez au même rythme que les flics. Si vous voyez des gens courir et ou paniquer, cette situation peut être évitée en levant les bras et en calmant la foule. Évitez de courir, tout va bien, on reste ensemble. Rien ne sert de courir tant que vous êtes en grand groupe. Les sourcières surviennent quand la foule est plus dispersée. Surtout, gardez votre calme. Si la police ne le fait pas déjà, fiez-vous pas là-dessus, il peut être prudent de contrôler le trafic automobile aux intersections. Placez des gens devant et sur les côtés de la manif pour bloquer la circulation transversale. Ne pas fournir de motif aux flics pour vous arrêter ou pour vous donner une contravention. Un policier pourrait invoquer un règlement municipal pour procéder à votre identification tout en vous donnant une amende. Vous devez donc éviter de cracher par terre ou de jeter un mégot sur la voie publique. Traversez pas aux intersections à une lumière rouge. Tenez votre vélo en ordre et traversez à la lumière verte après et avant la manif. Si vous pensez avoir vu un agent de police en civil, un undercover, soyez conscient et consciente que l'identifier directement peut vous valoir des accusations d'entrave au travail des policiers. N'agissez jamais seul. Informez d'abord discrètement les gens autour de vous, puis groupez-vous autour des undercover et scandez des slogans. Sautez, faites du bruit en les pointant, sans les toucher. Souvenez-vous qu'ils et elles sont toujours au moins en groupe de deux, souvent en paire à peu de distance l'une de l'autre. Alors méfiez-vous, la personne à côté de vous est peut-être aussi un ou une flic. Lorsqu'ils quitteront la manifestation, méfiez-vous et éloignez-vous des côtés. Leurs amis pourraient décider de venir les rejoindre en vous prenant au passage pour procéder à votre arrestation à l'écart de la foule. Rappelez-vous aussi que les undercovers sont parfois armés de matraques télescopiques qu'ils cachent en général dans leurs manches. Comment on peut repérer un undercover? Aucun des signes que je vais vous énumérer n'est en soi une preuve, mais leur accumulation est à suspecter. Un ou une undercover habile n'en possédera aucun. Par exemple, des bottes à cap d'acier avec une marque jaune au-dessous ou un soulier de course. Ils sont souvent deux par deux, souvent un homme et une femme ensemble. Ils vont avoir des carrures anormalement musclées, des capuchons de hoodie sur la tête pour cacher une oreillette. Leur style vestimentaire va souvent être déconnecté ou va paraître fake. Par exemple, un manteau de cuir punk, mais neuf, sans patch, une cagoule de motocross, des jeans, un chandail au message politique douteux. Il est particulièrement important de se rappeler que les flics ont aussi des fusils, des guns. Et s'ils se sentent menacés, ils peuvent très bien décider de le sortir, comme ça a été le cas en décembre 2015 lors d'une manif contre les mesures d'austérité. Surtout, restez vigilants et vigilantes. Si vous êtes témoin de violences policières, documentez-la, filmez, prenez des photos, notez la description des agents qui y sont impliqués, incluant les numéros qu'ils portent et ceux qui figurent sur leur voiture. Contactez le COBP au besoin et les organisateurs, organisatrices de la manif pour organiser une éventuelle plainte en déontologie ou pour vous proposer comme témoin si une telle plainte est déjà déposée. Restez vigilant ou vigilante, ceci peut vous attirer l'attention de la police qui pourrait être tentée de saisir votre matériel. Le corps policier nous parle. Les signes d'un prochain mouvement de sa part peuvent être détectés et anticipés. Ils se déplacent plus rapidement, ils mettent leur casque, ils font une ligne avec leur bouclier, la brigade urbaine, les vélos, etc. Restez vigilant, vigilante au mouvement de la police lorsqu'il se déplace et lorsqu'il se prépare à agir. Il est relativement aisé d'éviter la violence policière envers soi si on est suffisamment à l'écoute des signes avant-coureurs. Lors de la manifestation, il est particulièrement important de développer l'habitude d'identifier en tout temps des voies de fuite dans la situation où la manifestation dégénérerait. N'oubliez pas que les choses vont souvent vite et le climat d'une manif peut rapidement changer du tout au tout. Aussi, si qui que ce soit le demande, il n'y a pas d'organisateur, ni de chef, ni de trajet, à ce que l'on sache, ni de lieu où va finir la manif. On évite de discuter avec un étranger qui cherche quelqu'un de précis ou qui pose des questions de cette nature. Pour organiser une bonne manifestation, il est important de dispatcher différentes tâches. Par exemple, la bannière de tête. Assurez-vous qu'il y aura des gens au départ de la manif pour tenir la bannière. Si vous avez prévu un trajet précis, c'est cette bannière qui dirigera le cortège. Assurez-vous également que des gens seront disponibles pour récupérer la bannière à la fin de la manif si vous voulez la conserver. Ensuite, ça prend des médics, de préférence des gens qui ont de l'expérience en premiers soins et en manifestation. Assurez-vous que ces gens-là soient visibles à l'aide d'une croix rouge faite en tape, ça fonctionne très bien, et que ces personnes-là aient le matériel adéquat. Par exemple, une mini-trousse de premiers soins, du Malox, de l'eau potable, des collations. Il peut y avoir des personnes qui assurent la sécurité. Le groupe qui s'occupera de la sécurité des participants-participantes, par exemple, en bloquant la circulation, en informant la foule des mouvements des policiers, en calmant les gens lors de mouvements de panique, en informant les gens sur les sorties possibles, etc. En aucun cas, le service de sécurité d'une manifestation ne devrait restreindre la mobilité des participants-participantes. Il ne faut pas nuire aux actions autonomes et il faut permettre la diversité des tactiques. C'est la meilleure manière d'être le plus sécuritaire pour toutes les personnes présentes à la manifestation. Il pourrait également y avoir une équipe de soutien légal, des gens informés en matière juridique qui donneront aux manifestants manifestantes le numéro de l'avocat de garde pour la manifestation, pourraient distribuer des exemplaires du petit zine « Surprise, on a des droits » et qui vont prendre en note les informations des personnes arrêtées, etc. Et si vous prévoyez répondre aux journalistes avec une ligne de communication unifiée, il peut être également utile d'avoir une équipe média dans l'organisation de la manifestation. Une escouade à vélo peut également être très utile lors d'une manifestation et peut permettre de faire du repérage aux alentours de la manifestation. L'avantage du vélo est bien évidemment sa mobilité et sa vitesse. Le bike squad communique avec la tête de la manif ou des éléments au sein de celle-ci pour informer des mouvements policiers, des endroits à éviter, etc. Très important aussi de se préparer des slogans et du matériel d'information. Par exemple, des listes de slogans à scander, des tracts à distribuer aux passants passantes pour expliquer le but de la manifestation peuvent être particulièrement utiles et entraîner un impact plus significatif de la manifestation. Tout dépend bien évidemment des forces disponibles, de l'enjeu, des moyens employés et du format de l'événement. J'ai parlé de diversité des tactiques. C'est quoi la diversité des tactiques? C'est le fait d'accepter que d'autres personnes ou d'autres groupes vont utiliser différentes tactiques que les nôtres. C'est pas nécessaire d'utiliser la violence, mais de pas nuire à celles et ceux qui le font. C'est aussi important, quelle que soit la tactique que l'on emploie, de ne pas compromettre la sécurité des autres par nos actions et d'en assurer au minimum la responsabilité. Par exemple, ne pas lancer de projectiles si on est loin de la police, on risque de blesser une vraie personne, puis si la police charge, ben elle va taper sur les gens qui sont proches d'elle en premier. Quoi faire après une manifestation? Le moment de la dispersion est critique au niveau de la sécurité. Les participants et participantes sont de moins en moins nombreux et la foule est de moins en moins compacte. C'est donc le moment idéal pour l'encerclement d'un groupe particulier ou de la manifestation entière. De plus, si la police cherche des gens, elle peut procéder à des arrestations en périphérie de la manifestation. Si la description de la personne recherchée est imprécise, les forces policières peuvent se tromper sur l'individu et arrêter n'importe qui correspondant à cette description. Le fait de n'avoir rien fait n'immunise donc pas contre le risque d'arrestation. Des amendes pour infraction aux lois municipales peuvent aussi leur permettre d'identifier des participants participantes qui leur semblent intéressants, tout en mettant une pression financière sur les militants militantes. Si votre habillement a été exposé, se changer et le cacher ou s'en débarrasser. Enlevez tout signe distinctif qui pourrait vous rendre reconnaissable. Par exemple, un keffieh, une casquette, des vêtements noirs. Pour se changer, on peut former un cercle avec ses camarades et se mettre dans le centre, à l'abri des regards. Si du matériel offensif a été utilisé, il vaut toujours mieux en disposer. Il est toujours possible de le cacher et de revenir le chercher plus tard, très prudemment. Ne quittez jamais une manifestation seule. L'idéal est de partir en petit groupe de 3 personnes. Être plus de 3 personnes attire davantage d'attention et pourrait nous valoir une accusation d'attroupement illégal. Après la manifestation, la tradition voudrait qu'on prenne une bière militante. N'oubliez pas que des arrestations ont déjà eu lieu dans des bars après des manifs. Si vous avez des raisons de croire que la police s'intéresse à vous après un événement militant, il peut être sage de troquer le bar pour un appartement privé. Pour ce qui est de la répression policière et de l'ABC des premiers soins de manif, une des tactiques que la police peut utiliser, c'est l'encerclement. La police peut tenter de bloquer des issues pour finalement refermer ses colonnes anti-émeute sur la manifestation. Le SPVM est particulièrement adepte de cette technique. Une autre technique est la charge anti-émeute. Lorsqu'une colonne anti-émeute charge, les policiers ne voient pas bien et ont du mal à avancer ensemble. Ils font donc des pauses après quelques mètres pour refermer leur ligne. Méfiez-vous de la réaction de panique et calmez les gens qui courent pour éviter qu'une personne tombe et se fasse piétiner. Une charge vise soit à éclaircir la foule pour isoler un individu ou un groupe, ou à accélérer la dispersion d'une manifestation. Ensuite, la cavalerie est de plus en plus mobilisée pour les manifestations à Montréal. Elle est utilisée pour disperser la foule ou la couper en deux. Les chiens sont utilisés pour faire peur aux manifestants-manifestantes et peuvent aussi servir à trouver des stupéfiants. Notez que les chiens ne sont pas affectés par les gaz lacrymogènes puisqu'ils n'ont pas de glandes lacrymales. Ensuite, les gaz et les aérosols, fumigènes, lacrymogènes, poivre de Cayenne. Il existe plusieurs types de gaz et plusieurs types de contenants. Les fumigènes et les lacrymos sont tirés d'un fusil et sont contenus dans un tube qui chauffe rapidement une fois lancé. Les fumigènes, quant à eux, libèrent un gaz blanc inoffensif et servent à faire paniquer et disperser la foule. Les lacrymogènes dispersent un gaz irritant qui attaque le système respiratoire et les yeux. Il en existe plusieurs types qui varient en puissance. Relancer une grenade lacrymogène peut être une entreprise périlleuse. Le lanceur est souvent la cible de tir de balles de caoutchouc. Le tube chauffe et peut infliger une brûlure sévère. Il est aussi possible de confondre une grenade explosive en caoutchouc avec un lacrymogène. Or, la grenade explose et peut potentiellement vous arracher la main. Le poivre de Cayenne et les lacrymogènes peuvent aussi être utilisés en format aérosol de poche ou dans un contenant de style extincteur. Contrairement au format précédent, ces derniers n'incommodent que les personnes directement arrosées, ou à peu près, et ne pénètrent pas dans les édifices. Ils sont donc favorisés dans les grands centres. En cas de gaz lacrymogène ou de poivre de Cayenne, les premiers soins recommandés, c'est premièrement sortir la victime du nuage de gaz. Bien recracher l'irritant et moucher à fond, ne pas avaler. Il est important aussi de rincer le visage et les yeux à grande eau ou à l'eau mélangée avec, à 50% avec un antiacide comme du Malox par exemple. Puis ensuite à grande eau pour enlever le résidu antiacide. Le mieux, c'est d'utiliser une bouteille de sport et rincer l'intérieur de l'œil vers l'extérieur. Calmer la victime tout au long de l'intervention parce que l'irritation peut être décuplée par la panique. Si la victime porte des verres de contact, il est impératif de les enlever avec des doigts propres non contaminés par le gaz. Les vêtements contaminés doivent être emballés dans un sac plastique et scellés. N'oubliez pas que si vous êtes contaminé, vous contaminez les gens autour de vous. Lavez à l'eau froide sans aucun autre vêtement, répétez au besoin et rincez la laveuse. Ensuite, la matraque. Plusieurs formats en métal recouverts de caoutchouc ou en bois, longues, courtes, hantées, etc. En cas de coup sur la tête, au torse ou à l'estomac, il est impératif de consulter un médecin. Un coup sur la tête doit toujours être pris au sérieux. En cas de mal de cœur, vomissement, vertige, perte d'équilibre, saignement de nez ou des oreilles, perte de connaissance, même brièvement, des migraines, rendez-vous à l'urgence sur le champ. Ces symptômes peuvent apparaître quelques heures, voire quelques jours après le coup. Toujours s'assurer qu'une personne qui a reçu un coup sur la tête ne s'endorme pas avant plusieurs heures après le coup. Ça peut être très dangereux en cas de commotion cérébrale. Si la police vous frappe, il est pertinent de voir un médecin et de lui demander de noter vos blessures dans un rapport signé. Chaque marque doit aussi être prise en photo. Vous pourrez ensuite porter plainte en déontologie, voir le fascicule « Surprise, on a des droits » du COBP pour plus de détails. Plusieurs nouveaux outils policiers font leur apparition depuis quelques années. Rapidement, les taser guns, les balles de paintball pour marquer quelqu'un et l'arrêter plus tard. Les balles de paintball qui contiennent une poudre lacrymogène qui va marquer les gens et en plus va être incommodante. Les flashbangs. Les flashbangs vont exploser, faire du bruit et un flash aveuglant. Le canon à eau sur camion avec une lance à incendie est aussi utilisé. Il y a aussi les canons sonores qui vont émettre des sons à plus de 140 décibels qui vont être insoutenables et vont nécessiter une dispersion. Comment on peut faire pour se préparer à notre arrestation? Si jamais vous êtes arrêté dans une manifestation, il est important de garder son calme et de ne pas paniquer. Le processus qui vous mène de la manif au centre de détention, puis sur le trottoir devant le poste de police avec une enveloppe contenant vos effets personnels dans les mains est long, pénible, humiliant, mais vous allez y survivre. Gardez le silence en tout temps. On est tenu par la loi de donner son nom, son adresse et sa date de naissance, et ce, seulement si vous êtes effectivement en état d'arrestation. Rien ne vous oblige à en dire plus et tout ce qu'on dit peut être utilisé contre nous ou contre nos camarades. La police a le droit de mentir et n'est pas tenue de respecter une quelconque promesse faite durant votre détention. Vos compagnons de cellule peuvent être des policiers en civil ou peuvent devenir des indicateurs à force de chantage policier. Gardez en tête que les murs ont des oreilles et ne discutez pas de choses incriminantes ou permettant de vous associer à un groupe militant. Si la police vous menace, vous intimide et cherche à vous faire parler, c'est qu'ils ont besoin de matériel pour porter des accusations. Ne faites pas leur travail à leur place. On a droit à un téléphone à l'avocat ou à l'avocate. Cet appel devrait renseigner l'avocat ou l'avocate sur les circonstances de l'arrestation, les noms des policiers impliqués, les noms des autres arrêtés, les chefs d'accusation. Évitez de vous incriminer sur une ligne téléphonique appartenant au centre de détention de la police. L'affirmation « j'ai fait » devrait plutôt laisser place à « je suis accusé de ». À votre sortie, espérez voir des camarades qui vous attendent avec un café. Notez au plus vite les événements en détail, du début à la fin, ce que vous avez déclaré ou signé. Il est possible d'avoir à signer un engagement à comparaître, assorti de conditions ou de déclarations. Vaut mieux ne rien déclarer dès le début pour éviter de se faire manipuler à signer n'importe quoi. Si la déclaration ne vous convient pas, ne signez pas, auquel cas, ils rédigeront probablement un nouveau texte. Si vous êtes victime de violences policières, notez les coordonnées des témoins et les informations sur les policiers responsables et aussi tous ceux en poste durant les événements. Photographiez les marques de violence et consultez dans les plus brefs délais un médecin pour qu'il produise un document attestant de ces marques, contactez un avocat et envisagez la plainte en déontologie policière. Qu'est-ce qu'on fait si on est témoin d'une arrestation? Si on assiste à une arrestation, on peut aider la personne qui l'a subie. On peut lui demander son nom, lui dire ses droits, garde le silence, parle à un avocat, garde le silence, garde le silence. On peut lui donner le numéro de l'avocat ou de l'avocate attitrée à la manifestation. On peut surveiller la police, recueillir des vidéos, des photos, les coordonnées des témoins. On peut demander aux policiers où ils amènent notre camarade et de quoi il ou elle est accusé. On peut par la suite contacter l'avocat ou l'avocate. On peut également organiser une vigile de support au lieu de détention pour accueillir la ou les personnes détenues à leur sortie du centre de détention. Évitez de trop approcher ou de provoquer les policiers qui pourraient vous accuser d'entrave au travail des policiers. Pour conclure, voici quelques informations concernant la culture de sécurité dans les milieux militants. Une culture de la sécurité, au final, c'est de construire en groupe, entre complices, une confiance suffisante pour chasser la peur et faire tout notre possible pour que personne ne se fasse attraper. Une bonne culture de la sécurité, c'est une série d'habitudes et de coutumes qui sont partagées par un groupe dont les membres peuvent être impliqués dans des activités qui pourraient intéresser la police et dont la pratique minimise les risques encourus. Avoir mis en place une telle culture peut éviter aux membres du groupe de réinventer à chaque fois la roue en la matière et contribuer à limiter les sentiments de paranoïa et de panique. Cette culture à long terme devient inconsciente, instinctive et bouffe au final beaucoup moins d'énergie. Une fois que le comportement le plus sûr est devenu commun à toutes et à tous, vous allez passer beaucoup moins de temps à en souligner le besoin et à vous inquiéter de savoir à quel point vous êtes en danger par rapport à vos actions. La culture de sécurité, c'est pas l'institutionnalisation de la paranoïa, mais c'est plutôt une façon de minimiser les risques pour éviter l'apparition de la paranoïa. La base d'une bonne culture de sécurité, c'est d'éviter que des informations sensibles ou incriminantes se retrouvent dans les mains de la police. On évite donc de parler d'informations sensibles dans un lieu public, on ne partage pas une telle information même à ses amis, à moins que ce soit vraiment nécessaire. Partager une information sensible avec une personne qui en a pas besoin, c'est la mettre en danger inutilement. Par exemple, si elle est interrogée, elle pourra pas clamer sa véritable innocence parce qu'elle aura quelque chose à cacher. Si elle est interrogée, elle pourrait aussi craquer. Ainsi, si vous prévoyez une action illégale, assurez-vous que seules les personnes qui y prendront part soient au courant et que toutes ces personnes se font suffisamment confiance. Ne vous impliquez pas dans une action qui vous rend inconfortable ni avec des personnes dont vous vous méfiez. Ça ne peut que contribuer à l'échec de l'action et mettre en danger vos camarades. Sachez à quel point vous pouvez compter sur vos camarades. Posez-vous les questions suivantes. Depuis combien de temps est-ce que je connais cette personne-là? Jusqu'où est-ce que je peux retracer son implication dans le milieu militant? Comment se sont passées ses expériences dans d'autres groupes? Évitez de passer votre temps à vous demander si telle ou telle personne, c'est une flic ou une indique. Si le niveau de sécurité est efficace, ça pose pas de problème. Les délires parano, suspecter chaque personne que vous rencontrez, ça fait que dépenser de l'énergie. Si vous laissez pas sortir les informations sensibles du cercle de personnes concernées, ni les flics ni les indiques ne pourront prouver quoi que ce soit contre vous. Chaque heure passée à se demander si vous êtes surveillé est une heure que vous ne passez pas à limiter les dangers posés par cette surveillance. Douter en permanence du potentiel des camarades ne fait que vous affaiblir. Une culture de la sécurité adéquate doit rendre chaque personne plus confiante et non le contraire. L'important n'est pas de savoir si telle ou telle personne travaille avec les flics, mais si elle représente un risque pour votre sécurité et celle de vos camarades. Ne jamais laisser survenir une situation où la sécurité de tous et toutes dépend d'une personne à qui vous ne faites pas confiance. Vous devez également apprendre à respecter les exigences en matière de sécurité de chaque personne. Assurez-vous que ces personnes se sentent en confiance avec vous et entre eux et elles. Évitez de les placer dans une situation inconfortable. Soyez conscient et consciente du danger, involontaire ou non, que vous faites courir à d'autres. En demandant à d'autres personnes de distribuer du matériel, en faisant des actions durant une manif, etc. Réfléchissez à ce que vous comptez faire si vos camarades se font attaquer ou arrêter pendant ou après l'action. Pourrez-vous les soutenir concrètement? Et vice-versa, pourront-ils et elles vous soutenir? Ceux et celles qui transgressent les cultures de la sécurité ne devraient pas être engueulés trop durement. Il est important d'expliquer à la personne qui a merdé les risques qu'il ou elle a fait courir à ses camarades. Ceux et celles qui comprennent pas devraient être tenus à l'écart des situations sensibles. Par ailleurs, évitez de parler d'informations sensibles avec des téléphones cellulaires à proximité. Enlevez la batterie et la carte SIM, sinon laissez les cellulaires dans une autre pièce. Vous devez également éviter de partager des informations sensibles par texto, par email ou par les réseaux sociaux. Les multinationales ont généralement tendance à collaborer avec les forces policières, même sans mandat. Par contre, la culture de sécurité est un code du silence qu'il ne faut pas confondre avec un code du mutisme. Généralement, dépendant du type d'action, il peut être bien, par exemple, de laisser un tract sur les lieux pour expliquer vos revendications. Une bonne culture de la sécurité devrait préserver autant que possible la confidentialité, tout en offrant la visibilité nécessaire aux perspectives révolutionnaires. On se croise dans la rue le 1er mai. Bonne manif!